Bonjour à toutes et à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle émission des Messagers du Cheval, une émission de Virginie Bonner et Michel Clément, Michel qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui, confinement oblige. Nous avons évoqué plusieurs fois des peintres célèbres comme l'anglais George Stubbs ou la française Rosa Bonheur, dont les œuvres célèbrent le cheval. C'est un peintre moins connu, mais qui s'est également illustré dans ce genre que l'on appelle la peinture animalière, dont je vais vous parler aujourd'hui. Il s'agit du Suisse Jacques-Laurent Agas, né à Genève en 1767, mort à Londres en 1849. Jacques-Laurent Agas a deux passions, les chevaux et le dessin. Il faut dire qu'il grandit notamment à la campagne, où sa famille possède un domaine en Savoie et où il côtoie de nombreux animaux. Il en profite pour monter à cheval et aime passer du temps à l'écurie. En 1801, dans une lettre, voilà ce que sa tante écrit à son sujet, qu'il avait toujours préféré une vie campagnarde, les habillements les plus simples et les aliments les plus grossiers. Je l'ai vu manger le pain de ses chiens, panser ses beaux chevaux, sortir le fumier de son écurie, faire l'ouvrage de son domestique, qu'il plaçait dans une très belle voiture pour lui servir de cocher et avoir le plaisir de conduire ses chevaux. D'ailleurs, l'un des premiers dessins réalisés par Agas à l'âge de 10 ans est celui d'un poulain. Devant le talent évident de leur fils, les parents d'Agas l'inscrivent à l'école de dessin de Genève, créée en 1751. Nous sommes alors en 1778, Agas a 11 ans et il y apprend à dessiner d'après un modèle vivant, comme il l'avait déjà fait par lui-même avec le dessin du poulain. C'est à l'école de dessin qu'il rencontre Firmin Massot, puis Adam Wolfgang Töffler. Tous les trois vont collaborer aux mêmes œuvres, car Massot préfère les portraits, Töffler les paysages et Agas les animaux. Nous en avons un exemple dans cette huile de 1786 intitulée « Portrait de Noski Calandrini dans la cour d'une ferme genevoise ». Massot a représenté le modèle, un jeune homme. Agas a peint le cheval bai à ses côtés ainsi qu'une voiture attelée à quatre chevaux en arrière-plan. Les écuries et le paysage sont, eux, de la main de Töffler. Si Genève possède une école de dessin, elle n'a pas d'académie des beaux-arts. Et les artistes qui souhaitent poursuivre leur formation doivent aller à Paris. Agas y visite l'atelier du peintre David, où il étudiera pendant 3 ans. Comme le souligne l'historien de l'art suisse Louis Boissonnat, à Paris, Agas sent se confirmer en lui une impression ressentie depuis longtemps. Ce sentiment que le cheval a été pour la plupart du temps mal servi par la peinture. Il recherchera donc toujours à représenter les animaux et les chevaux en particulier de la manière la plus véridique possible. Mais dans l'atelier de David, c'est la peinture d'histoire qui est à l'honneur, le genre le plus noble dans la hiérarchie des genres en peinture. N'oublions pas que David représentera notamment le sacre de Napoléon quelques années plus tard. Aussi Agas, fort peu intéressé par ce type de peinture, va également suivre des cours de médecine vétérinaire, de dissection et d'ostéologie, approfondissant son art en dessinant l'écorché et les squelettes du Muséum d'histoire naturelle. Le dessin, intitulé « Squelette d'une tête de cheval », est un exemple de l'intérêt qu'il porte à l'anatomie, tout en traitant cette tête comme un portrait. De retour à Genève, il fait la connaissance d'un homme qui va donner un nouveau cours à sa vie, George Pitt, futur baron Rivers et mécène d'Agas, avec qui il partage une même passion pour les animaux. Il faut dire qu'au XVIIIe siècle, il règne à Genève une véritable anglophilie. De nombreux artistes vont séjourner en Angleterre et des jeunes Anglais font une partie de leur éducation à Genève. La Révolution française va conforter tout cela, l'Angleterre accueillant des exilés dès 1782. En 1790, Agas accompagne George Pitt en Angleterre, où il découvre le sporting painting, cette discipline typiquement britannique dont nous avons parlé dans notre émission consacrée à l'exposition Country Life et au collectionneur Paul Mellon, qui met en scène des chevaux, des chiens, des scènes de chasse et de courses hippiques. Contraint de rentrer en Suisse où sa famille a été ruinée par la Révolution, le jeune Agas vit désormais de son art. Les troubles politiques à Genève le poussent à se réfugier à Lausanne. Puis il fait un séjour à Paris de 1789 à 1799 avant d'embarquer pour l'Angleterre à l'invitation de Lord Rivers. Lorsqu'il arrive à Londres en 1800, Haggas a un projet, celui de s'établir comme peintre de Sporting Life. Tout d'abord, il lui faut se faire une réputation comme peintre de chevaux et de chiens appartenant à de riches propriétaires. Ensuite, il souhaite s'associer à un graveur, ce qui lui permettra de diffuser plus d'œuvres et de bénéficier du réseau des marchands commerciaux et donc de se faire connaître plus rapidement. Enfin, il souhaite s'établir comme peintre de sujets de chasse et de course en participant aux expositions organisées à Londres comme à la Royal Academy. Mais avant d'en savoir un peu plus sur les futurs commanditaires du peintre, je vous propose d'écouter Stéphane Escher, un de ses compatriotes, nous chanter « Déjeuner en paix ».
J'abandonne sur une chaise les chounelles du matin. Les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. J'attends qu'elles se réveillent et qu'elles se lèvent enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elles prennent. Cette fois, je ne lui annoncerai pas la dernière hécatombe. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin n'est ni rose ni honnête pour la peine. Est-ce que tout va si mal? Est-ce que rien ne va bien? L'homme est un animal, me dit-elle. Elle prend son café en riant. Elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Me demande-t-elle soudain, me feras-tu un bébé pour Noël? Elle prend son café en riant. Elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sous la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix.
Ces riches propriétaires qui vont permettre à Jacques-Laurent Haggas d'accéder à la notoriété. Tout d'abord, George Pitt, second baron Rivers. Né à Angers en 1751, il avait vécu sur le continent, notamment à Naples, avant de rentrer en Angleterre et de devenir député du Dorset en 1774, succédant à son père. George Pitt a une passion pour la chasse et les lévriers, qu'il élève avec ses chevaux dans ses propriétés de Stratfield Say dans le Hampshire et de Hare Park près de la ville de Newmarket, célèbre pour ses courses hippiques. C'est un ami personnel du prince de Galles, le futur George IV, lui-même éleveur et propriétaire de chevaux de course. Haggas séjourna à plusieurs reprises dans les deux propriétés appartenant au baron Rivers. Il y peignit entre 1806 et 1807 le haras de Lord Rivers à Stratfield Say, une huile d'1,50 m sur 2 m. C'est vraiment une œuvre incroyable. J'ai compté plus de 67 chevaux en liberté, juments et poulains, poulinières au ventre rond, tout cela dispersé en troupeaux. Et il y a encore des chevaux en arrière-plan, sous un arbre ou dans des paddocks proches de bâtiments. Les hommes ne sont pas absents de cette composition. Deux enfants au premier plan essaient d'attirer une jument alsane et son poulain. En arrière-plan, près de la clôture, un cavalier que l'on pense être Land Rivers. Derrière lui, un autre cavalier ferme la porte qui mène dans le pré principal, au fond duquel on aperçoit deux palefreniers tenant des étalons. Land Rivers acheta la toile, 300 livres, qui est pour l'époque une somme considérable, avant de la léguer à l'artiste. Elle a été achetée au XXe siècle par Paul Mellon en 1979, qu'il a donnée au Yale Center for British Art. Un autre très beau tableau, probablement peint à Stratfieldsay, est le groom de Land Rivers menant par la bride un cheval de chasse alsan vers un champ de course dans le Hampshire, peint en 1807. Et bien sûr, le portrait de Land Rivers et de ses amis, peint en 1818. Il s'agit d'un portrait de Land Rivers à cheval, abritant ses yeux du soleil de la main, probablement pour mieux suivre une course à Newmarket. Deux amis et un groom l'accompagnent, ainsi que deux lévriers, dont Young Snowball, que l'on peut reconnaître sur d'autres tableaux, dont deux chevaux et un lévrier dans un paysage. Land Rivers introduisit Jacques-Laurent Agas dans les cercles de course qu'il aimait tant, ce qui valut au peintre des commandes importantes, comme celle de E.H. Dillon Radcliffe, l'intendant des courses du prince de Galles, pour qui il fit le portrait de sa jument noire, Gaylas, qui fut exposée à la Royal Academy et qui du coup lui valut d'autres commandes de portraits de coursiers. En 1809, il peint le portrait du cheval gris Wellesley avec son propriétaire et son groom dans une écurie. L'honorable Henry Wellesley, plus jeune frère du duc de Wellington, avait importé des chevaux arabes en 1803 après son retour des Indes. Le portrait de Lord Heathfield est également une illustration des liens tissés par le peintre et ses commanditaires. Lord Heathfield était un ami de Land Rivers et du prince de Galles. Il prit Agas sous sa protection et, en tant que vice-président du Collège royal des chirurgiens de Londres, lui permit de fréquenter l'amphithéâtre de dissection, le musée, la forge et les paddocks appartenant au collège. Ce portrait de Land Heathfield indique bien la différence de traitement entre le cavalier et le cheval. L'homme y est le faire-valoir de l'animal, qui est le véritable objet du portrait. L'attitude du cheval et l'éclat de son regard, alliés au naturalisme de sa représentation, sont absolument saisissants de vie. Il existe 4 versions de ce portrait, ce qui nous apprend que le peintre avait beaucoup de succès. En effet, à l'époque, si un tableau est réussi, on en passe de nouvelles commandes au peintre. Dans le cas du portrait de Lord Heathfield, il fut exposé à la Royal Academy en 1811, puis, après la mort de ce dernier, Agas en peignit 3 versions, dont une pour le neveu de Lord Heathfield qu'il offrit au prince de Galles, devenu alors prince régent. J'ai tout à l'heure mentionné la jument Beglas, dont il fit également 2 portraits, et l'arabe gris Wellesley, dont il fit 5 portraits dans 2 versions différentes. Du tableau de Mademoiselle Cazenove à cheval, exposé à la Royal Academy en 1808, il fit également 4 copies. Mais il ne faut pas croire que Jacques-Laurent Agas ne se soit intéressé qu'aux portraits de chevaux et de leurs commanditaires. Dès 1795, il peint la forge de Lausanne, où l'on voit des chevaux de selle être ferrés. Un sujet qu'il reprend dans Le Maréchal Ferrant, la forge en plein air, réalisé vers 1800. Autre sujet qui va l'intéresser à divers moments de sa vie, le marché aux chevaux. Vers 1799, il peint le marché aux chevaux de Gaillard, dont le paysage est peint par son ami Töpfler, lui peint les chevaux. En 1817, il peindra The Country Fair, jour de marché, où se détache au premier plan un magnifique étalon noir. Un an plus tard, il place ce dernier au centre d'un nouveau tableau, jour de marché, l'étalon noir, où il décline une version plus resserrée du tableau précédent. Sur le même thème, il peint en 1833, en file pour le marché, où un cavalier mène 5 chevaux de trait aux robes de couleurs différentes le long d'un chemin ensoleillé bordé par des champs. Et comme dans de nombreux tableaux d'Agas, un chien est présent qui les regarde passer. Autre scène de genre, Les diligences et les voitures transportant les marchandises qui étaient très populaires à l'époque. Il en peindra plusieurs, dont le char de roulage en 1801, halte de la diligence de Portsmouth en 1815 ou encore la diligence en 1819. Il fera également plusieurs versions de ces différents tableaux. On peut également citer la matinée de neige peint en 1819 où l'on peut voir trois femmes et un homme dans une voiture tirée par un cheval noir traverser au pas un paysage enneigé accompagné par un petit chien. Et puisque nous parlons d'attelage, il y a un très spectaculaire tableau, une situation désagréable, peint en 1800, où l'on peut voir une calèche légère tirée par quatre chevaux gris penchée dangereusement. Les chevaux de tête effrayés par un chien ont quitté la route, les deux autres s'étant carrément assis. Après la mort de Lord Rivers en 1828, Agas commence à moins peindre, participant à peu d'expositions, voire plus du tout. Il continue à peindre des chevaux et des chiens et des animaux qu'il étudie à la ménagerie de Haring à Londres. À ce sujet, il a peint pour le roi George IV en 1827 une girafe qui avait été offerte au roi d'Angleterre par le pacha Mehet Ali. Le souverain égyptien en a également offert une autre au roi Charles X en France. Agas fait également des portraits des gens de son entourage, dont des membres de la communauté huguenote suisse de Londres, ce qui lui permet de subsister. À partir de 1842 jusqu'en 1845, il expose à nouveau des toiles à la Royal Academy et il continuera à peindre jusqu'en 1849. Il meurt en décembre de cette même année à Londres, âgé de 82 ans. Le peintre Edwin Landseer, qui connaîtra lui aussi la gloire en tant que peintre de chevaux et de chiens, jeune a pu voir des dessins d'Agas. Et il s'est exclamé devant l'un d'eux, un dessin de cheval, en disant ces mots-ci, « Il peint les animaux comme personne ». C'est sans doute le plus beau compliment que l'on puisse faire à un homme qui toute sa vie a cherché à représenter l'essence même du cheval. Notre émission touche à sa fin. Je vous souhaite une bonne semaine à tous, en attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission des Messagers du Cheval.